Les Afterwork curieux.
Sans transition, je laisse maintenant la place à Thierry Berthier. Je le rappelle, vous êtes docteur en mathématiques, enseignant-chercheur à l'Université de Limoges. Vous travaillez aussi du côté de la Bretagne également. Vous êtes expert en cybersécurité. Et ce que j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure, c'est que vous faites aussi des publications dans différentes revues ou magazines ou journaux. On peut retrouver en ligne des articles de vous-même sur The Conversation, sur le Huffington Post, sur le site Contrepoint également et plein d'autres. Évidemment, moi, je suis tombé dessus très facilement en tapant votre nom. Sur les échos aussi, merci de compléter. Beaucoup de choses, du coup, à analyser. Et donc, on va maintenant plus précisément parler de cybersécurité, même si, évidemment, je pense que tout l'univers de l'intelligence artificielle est étroitement lié à ce domaine-là. Peut-être déjà une première question très candide aussi. Une définition de la cybersécurité, ça existe ou pas? Comment on pourrait définir ça?
On veut toujours avoir des définitions d'un peu tout.
Ouais.
La cybersécurité, oui, c'est d'abord, c'est pas la même chose que la sûreté, la sécurité. Hein, il y a des différences. Et puis, c'est difficile à définir parce que c'est totalement corrélé à l'invention de l'informatique finalement et l'arrivée de l'informatique grand public. C'est-à-dire l'insécurité. Quand on veut parler de sécurité numérique, faut parler d'insécurité aussi. Et l'insécurité numérique, elle est née avec l'informatique. On l'oublie souvent, mais les premiers virus sont arrivés dans les années 60. C'est-à-dire dès que les premières machines sont arrivées, alors elles n'étaient pas exactement comme aujourd'hui, évidemment, avec très peu de mémoire, très peu de capacité de calcul. Dès qu'on a pu programmer, la notion de virus est arrivée et a été formalisée à l'époque. Elle a même été formalisée avant même qu'on ait des machines à calculer, entre guillemets. Turing a posé les bases, Alan Turing a posé les bases de ce qu'on pourrait appeler un malware aujourd'hui. Donc c'est bien avant que les machines arrivent. Donc c'est une histoire qui va vraiment avec la sécurité, l'insécurité informatique, elle vient vraiment avec l'informatique. Alors évidemment, elle a suivi tous les progrès de l'informatique et elle s'est. L'insécurité s'est industrialisée aujourd'hui. C'est-à-dire les hackers d'aujourd'hui ne sont pas les hackers de 1990. Qui n'étaient pas non plus les hackers de 1980. Voilà. Disons qu'en 80, ça pouvait être des ados dans leur chambre qui s'échangeaient des disquettes, des flexettes, 5 pouces 5 quarts sur leur Apple IIe et qui faisaient écraser d'autres fichiers. Donc ça, c'était l'aspect malveillant. Et qui s'échangeaient les jeux de la main à la main ou dans des réseaux en disant « Tiens, regarde, c'est le dernier jeu à la mode. Tu vas jouer avec, tu verras. » Et en fait, les gens mettaient ça dans leur machine et ça écrasait toutes leurs autres données, ça flinguait leur système d'exploitation de l'époque. Donc on a les mêmes problématiques qui ont traversé plus de 50 ans. Alors aujourd'hui, c'est les choses, évidemment, ont un peu changé d'échelle, mais la définition, finalement, elle est la même sur la malveillance. C'est quelque chose de très difficile. Formellement, il y a plein d'articles. On est en train, avec un collègue, d'écrire un bouquin pour Wiley, là-dessus, c'est « The Complexity of Cybersecurity ». Et on est obligé de chercher les définitions qui existent. C'est très compliqué. Il y a des définitions pour un virus, avec la notion d'autoréplication, c'est-à-dire le virus, il se recopie sur lui-même et à des endroits, sur la place mémoire. Ça, on sait le faire à peu près depuis 25-30 ans. On a su donner cette définition. Après, pour définir un malware, c'est bien plus compliqué. Les choses, il y a des articles, il y a des essais, qui datent des années 2010, 2011, et encore qui ne sont pas complètement satisfaisants. Donc c'est une question super difficile.
Bon.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et en plus de ça, il y a le facteur humain. On n'en a pas parlé encore, mais l'insécurité informatique, c'est trois couches. C'est le hardware, donc la couche matérielle, c'est la couche software, et puis le maillon faible de la chaîne de sécurité, c'est le biologique. C'est nous, c'est vous. Et avec les biais, ça, Pierre Fay, qui est un grand spécialiste des sciences cognitives, des meilleurs Français, pourrait en parler pendant des heures sur les biais cognitifs. Et aujourd'hui, l'insécurité informatique, c'est extrêmement lié aussi aux biais cognitifs humains qui sont exploités par les attaquants. Toutes les grosses attaques en ce moment, 78% à 80% des attaques informatiques, à la base, au niveau de l'ingénierie sociale, elles exploitent nos biais cognitifs. Et c'est valable pour tout le monde, ça, c'est... Quel que soit l'âge, on est vieux, on est jeune, on est cultivé, instruit, on n'est pas cultivé, on n'est pas instruit, peu importe. On est du métier, on n'y est pas. On se fait tous rouler. On se fait tous avoir. Et ce que l'intelligence artificielle nous amène aujourd'hui nous prépare des choses encore bien supérieures. Donc ça, on pourra en parler tout à l'heure. Pour garder le fil de l'IA, on peut garder le fil de l'IA, parce que l'IA est née aussi en 56, donc l'informatique et l'IA allaient un petit peu de pair, et l'insécurité a suivi tout le long. Alors pour faire un petit historique, si on peut aller sur cette voie-là, les années 70 et 80, c'était vraiment les premiers malwares, donc les premiers virus, des virus qui se recopient, des virus qui effacent d'autres choses, qui changent des registres, des choses comme ça. Donc des choses limitées, parce que les machines n'étaient pas encore vraiment en réseau. Donc il n'y avait pas beaucoup de contagiosité de la charge virale. C'est-à-dire que c'était contagieux de main à la main, ça passait par les disquettes, voyez, qu'on s'échangeait à l'époque. Ensuite, dans les années 80, les premiers réseaux internes du genre de l'intranet se sont développés dans des structures. Et là, du coup, les charges virales ont commencé à prendre de l'ampleur et à commencer à ne plus se déplacer via les disquettes, mais se déplacer aussi via le réseau. Donc ça, c'est les années 80, fin des années 80, les premiers exemples de diffusion de charges virales comme ça. Et puis les années 90, ça a été l'explosion, évidemment, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux, où là, ça a été la profusion des choses là. Et depuis, avec les vecteurs de contagion, ce sont nos boîtes aux lettres électroniques, ce sont... c'est pas que ça, hein, ça peut être aussi les clés USB qu'on s'échange. Ça, c'est resté des années 80, ça marche encore très bien, hein, les clés USB que des attaquants déposent à l'entrée d'une entreprise, dans le hall de l'entreprise, et donc souvent c'est la secrétaire qui tombe dessus, qui dit tiens, mais ça a l'air d'être une clé de quelqu'un, c'est peut-être important, tiens, c'est à qui la clé? Et donc au bout d'un moment, elle met la clé pour savoir à qui appartient cette clé, et au coup elle met la clé dans la machine, c'est terminé. D'accord ? Le mal est fait, puisqu'il y a un binaire, il y a un exécutable qui va se lancer et qui va créer un pont entre le système, s'il n'est pas bien protégé, entre le système et l'extérieur. Et du coup, une équipe va pouvoir prendre le relais derrière. Donc voilà, donc ça, c'est toute la partie ingénierie sociale. Aujourd'hui, une attaque, c'est de l'ingénierie sociale. Ça ressemble beaucoup à ce que les services de renseignement font depuis toujours, hein. C'est-à-dire qu'on va étudier une cible. On va amasser beaucoup d'informations dessus, alors notamment en source ouverte, mais pas que, on va pouvoir le faire autrement. Et puis, une fois qu'on aura amassé beaucoup d'informations sur cette cible, on va pouvoir lancer une attaque. Donc on a repéré, typiquement pour une PME, les PME françaises aujourd'hui sont extrêmement ciblées, hein, principalement dans les campagnes, dans les territoires. Elles peuvent penser qu'elles sont à l'abri, qu'elles sont moins ciblées, mais c'est faux, c'est le contraire. Les grands groupes, en général, ont une politique de sécurité déjà bien établie depuis 10 ans, 10-15 ans. Quand c'est des groupes qui sont liés à des intérêts vitaux pour la nation, là, vous avez déjà des agences comme l'ANSSI qui ont un pouvoir très fort sur ces grands groupes. Et donc, la sécurité, elle est au maximum. On ne peut pas se permettre de ne pas faire les mises à jour de sécurité, de ne pas patcher les systèmes. Sur un grand groupe, pour la plupart... ils sont quand même bien protégés. Là où ça pêche beaucoup, c'est quand on descend dans le niveau de la taille du groupe, où on arrive sur des PME-PMI. C'est le champ de bataille favori des attaquants, parce que c'est là où ils font leurs bénéfices. Donc les attaquants, c'est pareil, le paysage des attaquants aujourd'hui, en 2020, il a beaucoup évolué. Dans les années 90, on avait encore le mythe, hein, ce qu'on voit dans les films, le hacker, qui a toujours une cagoule d'ailleurs. Alors, moi, je dis toujours aux étudiants, je fais des interventions un peu partout en France, j'ai dit toujours, moi, j'en ai jamais vu, hein, des hackers avec cagoule.
C'est peut-être pour la webcam, on ne sait jamais. Non,
voilà, voilà. La cagoule et le gars qui se cache avec les menottes, enfin, avec le truc, bon, tout ça, c'est bon. C'est dans les films, et pareil, dans les films américains, le hacker, en 3 secondes, il rentre dans le SI de la CIA, en 4 secondes, il a piqué toutes les données de la CIA, 5 secondes, il est ressorti, et 6 secondes, il a sauvé le monde, enfin, ou empêché l'attaque. Ça, c'est très très loin de la vérité. Faire une attaque aujourd'hui, c'est très long, ça peut être coûteux, et plus votre cible est taillée, est carénée, plus ça va être compliqué, plus ça va vous coûter du temps et de l'argent. Donc, vous voyez, les attaquants, ils s'adaptent aussi, et ils vont aller cibler des cibles qui sont moins protégées, ou qui se pensent moins ciblées, Et donc typiquement, la PME française ou la PME européenne ou américaine, c'est tout à fait, c'est une très bonne cible. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a celles qui ont eu une réflexion sur la cybersécurité il y a quelques années et donc qui ont fait le travail. Alors, c'est un travail culturel, mais intellectuel, mais c'est aussi un travail d'investissement. Hein. Parce que les patrons de PME en général, il y en a encore aujourd'hui, quand on vous parle, on leur parle de sécurité, ils disent, mais ça me rapporte quoi, moi, ça ? On me dit, on va installer un système, on va sécuriser le système, combien ça va me coûter ? Et ça, c'est de la perte sèche pour mon entreprise. Donc ça, c'est encore très ancré dans la culture française des industriels, des PME, des patrons de PME, des décideurs, des chefs d'entreprise, de dire, moi, la sécurité de mon système d'information, bah, finalement, c'est... Ce n'est pas le cadet de mes soucis, mais ce n'est pas ma priorité parce que j'ai bien d'autres priorités, parce que je suis à plus tendu, parce que j'ai des RH, parce que j'ai... Voilà. Donc ceux-là, c'est vraiment la bonne cible. Ceux qui fonctionnent mentalement comme ça. Parce que ça veut dire qu'ils ont pris du retard dans la politique de sécurité de leur boîte et qu'il y a des portes ouvertes ou entre-ouvertes qui vont pouvoir être exploitées. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, je me mets à la place d'une équipe d'attaquants, hein. Et après, on dira un peu la forme, la morphologie, la typologie de ces équipes d'attaquants. Je me mets derrière une équipe d'attaquants, ben on va cibler une PME allez, de 100 personnes. Et puis, on va se dire, on va commencer à faire des tests, on va regarder déjà toutes les infos en source ouverte. Qui est-ce qui est dans l'entreprise, qui est-ce qui est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou ailleurs. Qu'est-ce que les gens postent, quelles sont leurs habitudes. Donc ça, c'est une phase d'ingénierie sociale qui peut durer un mois, deux mois, trois mois, où on réunit toutes les informations. Et on commence à avoir un plan, l'attaquant commence à avoir un plan de fonctionnement de l'entreprise par la projection que l'entreprise a sur son système d'information. Parfois, les attaquants, pour des attaques commanditées plus sophistiquées, ils vont se déplacer. Ils vont aller à la sortie de la boîte à midi, ils vont aller à la sortie de la boîte le soir, faire du repérage. Exactement comme ce que des services de renseignement économique ou des services de police pourraient faire. Ça relève du même fonctionnement.
Donc ce n'est pas que en ligne, en fait. On a le fantasme de tout se passe en ligne, mais ce n'est pas toujours le cas.
Ce n'est pas que en ligne. Pour des grosses attaques, quand il y a des grosses commandes sur des cibles importantes, il y a toute une infrastructure qui se met. C'est pour ça que c'est très loin de l'attaquant avec la cagoule. Vous avez des gens, entre guillemets, très bien qui sont dans ces équipes-là. Ce sont des équipes qui fonctionnent sous forme de mercenaires, de groupes mercenaires, qui, un mois, peuvent travailler sur une cible, et puis un autre mois, vont travailler pour l'État dans lequel ils se situent. Pour du travail équivalent, mais sur des cibles qui rentrent dans le cadre de conflits géostratégiques ou géopolitiques. Et puis le mois suivant, ils vont travailler pour leur pomme, parce qu'ils se disent, tiens, on va envoyer un ransomware sur tel truc, on a envie de se faire un peu d'argent. Donc, vous voyez, Black Hat, White Hat, Grey Hat, c'est les trois classifications des hackers. Le Black Hat, c'est vraiment le malfrat, le gars de la mafia, quoi, qui travaille pour sa pomme et qui est sans aucune... sans retenue, c'est la mafia, le Black Hat.
Donc c'est le chapeau noir, je traduis, voilà. Pour ceux qui ne maîtrisent pas
l'anglais
comme moi.
Le Grey Hat, c'est celui qui est au milieu. Et le White Hat, c'est celui qui est c'est le bon hacker, le hacker au grand cœur. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les films. Hein. Ouais, celui qui rentre à la CIA en 3 secondes et puis qui dénonce des trucs, des complots, des machins. C'est un peu le mythe Assange et compagnie. Voilà. Et eux, se revendiquaient aussi du White Hat, le bien commun et tout ça. Sauf que malheureusement, le monde est plus complexe que ça et les actions des White Hat peuvent être aussi parfois catastrophiques sans qu'ils s'en rendent compte au début. Donc les frontières, tout à l'heure on parlait de frontières, elles sont bien plus floues que ça. On peut être Grey Hat, en fait c'est que des Grey Hat la plupart du temps. C'est des gens qui peuvent être sur les bords, sur le côté. Alors c'est compliqué hein, parce que plus les systèmes sont interconnectés, plus notre évolution va vers une ubiquité de l'informatique avec l'IoT, les objets connectés. Ce sont des dizaines de milliards qui nous arrivent partout, dans tous les milieux, même dans la mer, sous la mer, partout, dans l'espace, partout. Ça, c'est autant de petites portes d'entrée pour de l'insécurité numérique. Alors, je ne veux surtout pas avoir un discours anxiogène, hein. Moi, je ne fais pas partie du tout des gens qui critiquent. Dans toutes les conférences que je fais, j'en fais une ou deux par semaine, partout en France. J'essaye de ne pas avoir de discours anxiogène parce qu'en France, on est déjà le pays du monde, dans tous les classements statistiques, qui a le plus peur de ces technologies, de l'IA, de l'IoT, tout ça. On est dans l'échiquier, enfin dans le classement, champion sur les 180 pays.
petit changement technique de micro, peut-être un hack.
C'est possible, c'est possible. Voilà, donc ça pose aussi un gros problème, d'avoir peur de la techno. Tout à l'heure, on a parlé d'intelligence artificielle, typiquement sur l'IA. Les derniers sondages, on n'arrivait pas à s'en détacher. On est ceux qui avons le plus peur de l'IA. Et ce qui est plus grave, c'est que quelle que soit la classe d'âge, avec les gens plutôt âgés qui sont les moins craintifs. Comme on pourrait penser l'inverse. Hein. Les gens âgés, on pourrait dire, voilà, ils sont... C'est eux qui pensent que ça peut être une opportunité, beaucoup plus dans la moyenne, hein, que les gens qui sont les plus craintifs, c'est les jeunes. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Parce qu'il y a du buzz derrière, parce qu'il y a du discours fantasmé sur l'IA. Et voilà. Alors, c'est indépendant aussi de la sécurité, évidemment. Ils ne sont pas craintifs pour ça. Craintifs, qu'est-ce que l'IA va me faire? Elle va me piquer mon job. Tout à l'heure, on en a parlé à juste titre. Il y avait un autre exemple hein, qui est proche de chez nous. Prenez l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, a robotisé toute son industrie d'un facteur 4 par rapport à nous. C'est-à-dire que les Allemands ont 4 fois plus de robots que nous dans leur industrie, dans toute leur industrie. Ils ont moins de chômeurs que nous. Donc, il n'y a pas eu plus de suppression d'emplois chez eux que chez nous.
Sont-ils plus vulnérables face aux attaques s'ils ont plus mécanisé ou automatisé leurs entreprises ?
Pareil. Ni plus ni moins aujourd'hui. On a toujours cette question, à part en moyenne, évidemment. Hein. Dans chaque pays, il y a les bons élèves et les mauvais. Et comment est-ce qu'on voit quand est-ce qu'on est un bon élève ou quand on est un mauvais élève ? Eh ben, c'est à l'occasion d'une attaque mondiale. On en a une en 2016, WannaCry, hein, qui a ciblé vraiment toute la planète. L'origine est encore très... très peu connu. Alors quand on ne sait pas, on dit toujours que c'est la Corée du Nord.
Je sais pas si vous savez. Ou la Russie aussi, des fois.
Alors ouais, mais Corée du Nord, c'est plus facile. C'est plus facile politiquement parce que la Russie, on a quand même quelques relations avec les Russes et on a envie que ça aille mieux. Donc c'est plus facile, c'est plus admissible de dire la Corée du Nord. On n'a quasiment pas de relation avec eux. Donc direct, quand il y a un gros truc, c'est sûrement les Nord-Coréens. Alors ça, c'est dans les médias. Hein. Moi, à chaque fois que je fais un article ou une interview dans une télé ou un machin, on me dit toujours. Et si c'était les Nord-Coréens ? Je dis toujours, moi, je n'ai pas d'infos là-dessus. Et bon, les Nord-Coréens, ils font ce qu'ils peuvent. Donc voilà, on a toujours tendance. Alors, il y a aussi les Chinois hein, et puis les Russes. Seulement, si on regarde ça, par exemple, vous voyez, alors on pourrait le voir en direct. Ça, c'est sur le site de Kaspersky. Vous allez sur le site, vous tapez Kaspersky Map et vous avez en direct les attaques en temps réel, 24 sur 24, en permanence. Donc ça tourne, vous avez le globe qui tourne et vous avez les attaques en temps réel. Hein, depuis des années, ça tourne comme ça. Avec toutes les attaques, ça ne s'arrête jamais. Et eux, ils ont un énorme centre qui collecte les attaques et qui remédie les attaques, qui les recense. Et donc, ça vous donne une bonne idée des attaques. Si vous regardez dans les stats sur une journée, sur un mois, sur un an, bah, vous voyez que tout le monde attaque tout le monde. Étonnant, hein ? C'est-à-dire que les Chinois, quand on fait un tableau, les Chinois attaquent les Russes, mais les Russes attaquent les Chinois. Les Chinois attaquent les Américains, mais les Américains attaquent aussi les Chinois. Nous, on attaque les Russes, mais on attaque les Américains. Et les Américains nous attaquent. Vous voyez ? Donc on a toutes les combinaisons possibles avec des degrés d'intensité. Alors quand on a des hotspots ou des moments où ça tape plus, comme on dit, souvent c'est lié au conflit géopolitique. C'est-à-dire quand il y a conflit armé directement. Typiquement, tout le conflit syrien, là, depuis 2013, c'est extrêmement... c'est un hotspot où il y a énormément d'attaques. Le conflit israélo-palestinien, c'est un hotspot aussi où il y a énormément d'attaques entre l'Iran, Israël, la Palestine et les pays environnants. Et puis d'autres acteurs. Donc ça, c'est constant. Et des attaques très puissantes. Très, très novatrice, avec de l'innovation derrière, et où là, c'est une question aussi de... C'est comme une guerre froide, mais qui ne serait pas froide, en termes de cyberguerre, on est vraiment dans de la guerre continue.
Donc ce que vous évoquez là, ça veut dire qu'il y a forcément un lien entre les conflits sur un territoire physique avec du hacking ou des attaques cyber.
On en a parlé l'autre jour.
Exactement, mais alors comment ça se passe en général aujourd'hui ? Parce qu'on va faire peut-être une petite transition, ce qui nous reste 10 petites minutes, je dirais, sur les conflits géopolitiques et l'utilisation justement du hacking dans le cadre de ces conflits-là. Comment ça se passe dans l'ordre aujourd'hui ? On fait d'abord du hacking pour saper les systèmes et on attaque après sur le terrain ?
Ouais, alors ça date pas d'aujourd'hui, mais disons qu'aujourd'hui, tout conflit armé, à sa composante cyber, et d'ailleurs commence par une composante cyber. Moi, si je suis un pays A et que je veux aller attaquer, pour des bonnes raisons, un pays B, qu'il soit près ou loin de moi, je vais commencer par faire une cyberattaque. Je vais donner la date d'attaque et je vais cadencer mon attaque en disant je commence par faire une cyberattaque massive, en jour 1 ou jour 2, pour désorganiser le pays. Et au niveau numérique, on peut désorganiser. Plus le pays est technologique, entre guillemets, plus il est connecté, plus il est... plus il peut être, si on arrive à rentrer dans ces systèmes, on peut le mettre par terre. Il n'y a qu'à voir quand il y a une coupure d'électricité, déjà, vous voyez, tous les gens sont avec leur congélateur à crier quand est-ce que EDF me remet. Bon, ça c'est un exemple. Mais on peut casser les systèmes aériens, on peut casser les feux rouges dans une ville, ça a l'air de rien comme ça, mais quand on casse les feux rouges, la ville devient impraticable. Vous avez des morts à tous les carrefours. On peut casser les systèmes de distribution d'eau potable. On peut casser plein de choses, toutes les choses qui sont connectées. Ça va du funérarium jusqu'au système, et oui, du funérarium, où c'est un gros objet connecté, un funérarium, jusqu'aux aéroports, jusqu'à toutes les ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Donc c'est ce qui a motivé aussi, il y a 11 ans, la création de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui, elle, a pour mission, qui est une agence parisienne, mais qui est répartie sur toute la France, qui a pour mission de protéger les infrastructures critiques françaises, civiles. Puis vous avez l'équivalent de l'ANSSI côté militaire, qui protège les infrastructures militaires critiques. Donc heureusement qu'on est protégé, parce qu'on est ciblé tous les jours, que ce soit le ministère de la Défense, ou les choses qui relèvent du ministère de la Défense, ou les ministères qui sont autres, ils sont ciblés tous les jours, les administrations sont ciblées tous les jours, avec beaucoup d'attaques de niveau faible, qui sont tout de suite bloquées, et puis quelques attaques de niveau, sur le MINDEF par exemple, c'est 10 à 15 attaques par an, qui sont vraiment de niveau très évolué, qui ne viennent pas d'un hacker à cagoule, hein, clairement, mais qui viennent d'équipes, et d'équipes de très haut niveau, et qui typiquement des attaques étatiques.
Et justement, parlons de ces origines, de ces attaques. Vous parliez d'un pays A qui attaque un pays B. J'imagine que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas forcément des organisations étatiques de hackers qui vont attaquer une autre organisation étatique d'hackers aussi. Ce qui est compliqué, là où je veux en venir, c'est que c'est compliqué aussi de connaître l'origine parfois des attaquants.
Alors, l'attribution, c'est un problème qui est compliqué quand vous avez une attaque ponctuelle. Après, si on est dans le cas d'un conflit qui se déclenche, comme il y a eu, par exemple, un moment, il y a 10 ans, en Estonie. La Russie a été en conflit avec l'Estonie et la Russie a fait comprendre, a envoyé un message très clair à l'Estonie, a cassé l'Estonie pendant 10 à 15 jours. C'est-à-dire a mis par terre tous les systèmes critiques estoniens. Il n'y avait plus rien qui marchait pendant 15 jours. 15 jours. Et normalement, au bout de 7-8 jours, c'était les chars qui devaient rentrer en... C'est toujours comme ça la cadence. Hein. C'est d'abord le cyber et ensuite l'armée de terre et l'aviation, l'aviation et l'armée de terre. Et bien ça, le message a été compris. D'abord, les Estoniens ont révisé leur position sur certaines questions politiques vis-à-vis des Russes. Et ensuite, avec cette attaque massive, l'Estonie est devenue un des premiers centres d'excellence en Europe en cybersécurité. Depuis, hein, c'est là où il y a tout le centre européen de la cybersécurité. En France, c'est la Bretagne. La cyber en France, il y a un endroit, c'est la Bretagne. Hein. Et en Europe, l'Estonie, c'est pas mal aussi. Voilà. L'Iran, par exemple, l'Iran a été extrêmement attaqué et donc est devenu un acteur majeur en cybersécurité offensive. C'est-à-dire qu'ils attaquent, ils se défendent. Israël a été énormément attaqué, continue à l'être quotidiennement. Il y a encore des attaques qui sont arrivées il y a 3 jours, là, importantes. Et voilà. Donc, quand c'est dans un cadre de conflit armé, c'est aujourd'hui complètement lié à l'emploi de la force, à la doctrine d'emploi de la force, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les Américains, depuis l'époque Obama, c'était une des premières mesures d'Obama. Quand Obama est arrivé au pouvoir, il a dit, voilà, alors c'est le cybercommande américain qui l'a dit, en fait, nous, si on nous fait une attaque de type Pearl Harbor numérique, c'est-à-dire une attaque massive, comme l'Estonie, par exemple, typiquement, on subit ça, tous nos systèmes sont à plat, on considère que c'est exact, sur le même plan, que c'est exactement la même chose qu'une attaque nucléaire sur notre territoire. Donc, au niveau doctrinal, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que vous envoyez une ogive sur Los Angeles ou sur Las Vegas, et sur Las Vegas, pour eux, pour les Américains, c'est inscrit dans le marbre, dans leur doctrine militaire, c'est aussi grave, et pas plus, qu'une attaque massive cyber sur leur infrastructure critique, qui de toute façon fera des morts en local. Donc eux, ils l'ont inscrit, et ça date pas de Trump, hein, ça date d'Obama, pour dire. Voilà. Et Trump, évidemment, a entériné la chose par la suite. Mais du coup, les Russes, à l'époque, avaient fait la même chose, et les Chinois aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi une force de dissuasion à ce niveau-là.
Et la guerre conventionnelle, elle, a un droit particulier avec la Convention de Genève qu'on connaît tous. Est-ce qu'il y a un droit particulier dans le cadre de cyberconflits ? Est-ce que, voilà, aussi, il y a un, entre guillemets, un ONU du conflit numérique ?
Je vais vous dire,
numérique.
Je vais être peut-être un peu pas contre-discours et politiquement correct. Tout ce qui est... Nous, en Europe, on est les champions. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Antoine Petit, à la dernière conférence qu'on a organisée, qui est patron du CNRS. Pourtant, qui a un discours très modéré, il dit en Europe, on est les champions de l'éthique, notamment en IA, alors que les Américains sont les champions du business en IA, et les Chinois sont les champions du géopolitique et du militaire en IA, et les Russes aussi. Donc à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Antoine Petit disait, il faut moins, un petit peu moins d'IA, ok, et un petit peu moins d'éthique, et un petit peu plus de business, et puis d'offensive derrière. Donc, vous voyez, c'est aussi un truc. En France, en Europe, on a le RGPD, on a plein de règles qui peuvent être intéressantes sur certains points, mais on émet aussi des règles qui vont être des liens aussi pour nous. Il faut aussi le comprendre. Sur plein de domaines qui sont liés à la sécurité, à la défense, on a aujourd'hui, typiquement, on a un gros problème avec... On a raté les drones, on est en train de rater les robots terrestres, alors qu'on a des atouts au niveau national, on a un champion... un top 10 mondial en Europe, en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, à La Rochelle. On a un top 2 au niveau européen, un top 1 français, et on ne sait pas en profiter, on ne sait pas le faire grandir à l'heure actuelle. Donc c'est un vrai problème. On a aussi un problème de... Comment dire, je ne peux pas parler crûment, mais on a un problème de...
On a le droit, c'est pas enregistré.
Non. Pour s'assumer, quoi, voilà, pour être un peu de virilité, si vous voulez, dans ce domaine-là où on en aurait besoin. Au niveau géopolitique, on a besoin de s'affirmer. Et malheureusement, c'est une question de volonté politique aussi. Hein. On est toujours dans l'entre-deux. On est à côté des Allemands aussi, qui ont une culture aussi, où c'est un peu compliqué aussi. Donc tout ça, c'est une condition qui marche très bien pour les Chinois. Leur discours aujourd'hui, on l'entend bien au Web Francia parce qu'on reçoit des délégations chinoises. Ils nous disent, les amis européens, continuez avec l'éthique. Ça nous intéresse beaucoup. Nous, on n'a pas le temps d'en faire, mais on pourra faire des collaborations. Et les Américains disent, oh, les Français, super, l'éthique, c'est génial, etc. Voilà un peu, je caricature à peine, mais c'est un petit peu voilà où est-ce qu'on en est. À côté de ça, la réalité, c'est qu'on a les meilleurs data scientists, les meilleurs spécialistes en IA. C'est que l'IA, au niveau mondial... C'est ce que je dis à mes étudiants à l'IUT. Elle se fait dans un axe, en ce moment, Londres, Paris, Zurich. Paris, vous avez le FAIR, c'est le Facebook Artificial Research Intelligence. C'est toute la recherche en IA de Facebook qui est basée à Paris. Et Yann Lequin qui a installé ça ici parce que ils prennent directement toutes les promos de Polytechnique, les promos de ParisTech, de Télécom, de Centrale. Il y a tout un vivier qui n'est pas exploité, qui est très peu cher, et on a les meilleurs là-dedans. L'INRIA, c'est une très belle structure. Tous les gens de l'INRIA en ce moment sont en train de partir chez Facebook, Apple, Google ou d'autres. Et donc, voilà, on est en train de se faire gentiment piller. Et il reste que les gens qui sont un peu soit patriotes, soit qui sont trop vieux pour partir, soit qui sont moins bons. Et voilà un petit peu la situation. On est dans une guerre géopolitique froide. Et là, on a encore, comme en cyber, on n'a pas d'alliés. C'est-à-dire qu'on nous pique nos meilleurs spécialistes en IA, en cybersécurité. Il y a une pénurie énorme au niveau mondial. Et on vient les chercher chez nous. Moi, j'ai plein de collègues qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas payés par l'INRIA, qui ont gardé leur poste à l'INRIA, mais qui sont payés par Facebook ou par Google. À Londres, vous avez Google. À Zurich, vous avez le grand laboratoire de Google. Et une autre particularité, c'est que ces labos-là, qui sont les plus importants du monde, qui sont dirigés par des Français. Le labo de Facebook, c'est Yann Lequin, français, qui a mon âge, qui est parti depuis 20 ans aux États-Unis, et qui a le labo de Google, c'est Mojnet, qui est pareil, qui a le même âge, qui fait moins parler de lui parce qu'il est moins médiatique, mais c'est lui qui lead toute l'intelligence artificielle chez Google. C'est un Français. Et si vous regardez du côté de Huawei, et d'autres, il y a des Français. Et puis du côté de Samsung, eh ben, vous avez Luc Julia. Je ne sais pas si vous connaissez Luc Julia. C'est celui qui a écrit il n'y a pas longtemps « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est un truc provocateur parce que lui sait que ça existe. Hein. Mais il a écrit ça et c'était celui qui a fait Siri, c'est encore un Français, celui qui a inventé Siri. Et puis aujourd'hui, c'est le patron de toute l'innovation pour Samsung. Monde, hein, pas Samsung France, hein, Samsung Monde. C'est-à-dire qu'il vient quelques semaines en France par an. Et il vient aussi faire ses courses puisqu'il vient chercher à l'INRIA, il vient chercher à l'ANS, il vient chercher à l'X. Des têtes de promo pour garnir ces équipes de R&D locales.
Alors, je me permets de tomber comme un cheveu sur la soupe, car je viens de regarder l'heure et il y a un petit décalage.
Parfait.
C'est voilà. En même temps, on a bu vos paroles, donc du coup, forcément, l'espace-temps est un peu biaisé, on va dire. Ça laisse peut-être 5 petites minutes pour des questions concernant la cybersécurité. Ou même d'autres sujets auxquels Thierry Berthier peut peut-être vous répondre. Donc, je ne sais pas si vous en avez en particulier. Alors, une juste ici, je me balade. Et ensuite, juste derrière, j'ai vu.
Pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que le problème ne viendrait pas... Le fait que les Français, on était en avance technologique dans les années 80, on avait un... sans parler forcément d'une politique ou d'un gouvernement qui poussait dans, là-dedans. On avait des grands groupes français qui étaient leaders mondiaux. Est-ce que les années qui ont suivi ne sont pas la conséquence de ce qu'on vit à l'heure actuelle, le fait que les grands groupes qui étaient en avance, comme Alcatel, qui était leader dans la communication, n'existent plus, a été absorbé par les Américains qui ont récupéré les brevets. On avait des distrib Linux qui étaient en avance sur tout le monde, qui ont complètement disparu, je pense à Mandrake. Là, à l'heure actuelle, moi je travaille sur un big data, on est chez Oracle.
Vous avez Scikit-learn qui est bien aussi pour faire de l'IA, oui. Et qui a été inventé par des gens d'INRIA. On ne le sait pas aujourd'hui, tout le monde a oublié que Scikit-learn, qui est une plateforme mondiale maintenant, et que c'est des Français qui l'ont créé cette plateforme. Ils n'ont pas su mettre un modèle économique, les gars, dessus, hein, ça, comme d'habitude. Sauf qu'elle était tellement bonne qu'aujourd'hui, elle rafle la mise. Hein. Mais eux, ils récupèrent zéro hein, sur l'ensemble, malheureusement. C'est ça le problème. Hein.
On voit les États-Unis qui poussent les grands groupes américains, le gouvernement américain. On voit les Russes qui font la même, on voit les Chinois qui font la même, mais on voit le gouvernement français qui, je parle en général, hein, pas de clivage politique ou quoi, qui est complètement absent là-dessus.
Alors, pas complètement absent, parce qu'il y a eu la mission Villani quand même, il y a eu la création du hub... où il y a des moyens, où nous on travaille avec les ministères, on a et le hub est lié à ce qui se fait au niveau européen. Donc nous, la directrice scientifique du hub, c'est Françoise Soulier, que certains connaissent peut-être, toi tu la connais Pierre. C'est une dame qui a été très active, c'est elle qui a monté une partie de l'IA en Chine. C'était la directrice de thèse de Yann LeCun, donc le fameux Yann LeCun, patron de l'IA de Facebook. Sa directrice de thèse, donc sa maman spirituelle, c'est Françoise, et c'est elle qui dirige le hub Francia. Elle est connue mondialement, puisqu'elle est aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. Les gens ne savent même plus qu'elle est française, tellement ils la connaissent. Et donc elle a été nommée par Macron ambassadrice de l'IA à l'Europe. C'est-à-dire elle est membre du High Level Group Expert, qui est un groupe qui rassemble, disons, les 10 meilleurs spécialistes du domaine au niveau européen, et qui est chargée de mener une politique, enfin des préconisations, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir politique, mais... de conseiller le Conseil européen pour mener une stratégie. Mais clairement, et moi je ne dirais pas années 80, hein, la vraie France industrielle, c'était les années 70. C'était les années Giscard, où on avait aussi une France, une classe politique avec des ingénieurs, des gens qui venaient aussi du business, des gens qui venaient de l'industrie, des grands projets, Concorde, tous les grands projets TGV, tous les grands projets qu'on a aujourd'hui, finalement, ils sont nés dans ces années-là. Il y avait une vraie vision stratégique, indépendamment des clivages politiques, des choses comme ça. Mais à l'époque, il y avait une vraie vision stratégique qu'on retrouve aujourd'hui en Chine, avec des politiques qui sont aussi des ingénieurs. C'est-à-dire, si vous allez en Chine, les décideurs, vous ne pouvez pas être décideur à un haut niveau si vous n'avez pas au moins un diplôme d'ingénieur à côté, même si vous ne faites plus d'ingénierie. Ce serait une chose merveilleuse ici, aujourd'hui. Ça éviterait aussi d'entendre des bêtises. Là aussi, je parle poliment, hein, mais à longueur de journée. À longueur de journée. Aujourd'hui, on a des ministres qui ne savent pas faire une règle de trois. Et c'est pas une attaque, hein. C'est vraiment démontré, quoi. Donc c'est compliqué après, aussi bien pour la transition écologique ou autre, d'avoir un raisonnement rationnel, sans biais, Voilà, c'est compliqué.
Précisez peut-être votre question. Oui, voilà, c'est la suivante.
Là, en fait, où je voulais en venir, c'est que je vois dans les pays européens où il y a à l'école, lycée, collège, une véritable culture de l'informatique avec des cours et ainsi de suite. Là, je me retourne vers la salle. Combien d'entre vous ont l'attestation du MOOC de l'ANSSI ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et pourtant, ça devrait être la base de n'importe quelle personne qui travaille avec un ordinateur.
Est-ce que vous pouvez clarifier ce que monsieur vient de dire ? C'est quoi exactement ? C'est une formation ? C'est quoi ?
Ouais, alors ça peut se faire en ligne, ça peut se faire, c'est un guide aussi des bonnes pratiques, et puis avec des questions-réponses, avec des choses comme ça. Alors l'ANSSI en a fait à plusieurs niveaux, mais il y a un niveau de basique pour les PME, pour même l'utilisateur lambda qui utilise aujourd'hui. Ils sont descendus jusqu'au niveau de l'utilisateur solo, et ça va comme ça jusqu'en haut. Une forme de certification culturelle sur des compétences basiques pour se garantir une certaine sécurité, une certaine hygiène. Alors, c'est pas une sécurité, c'est une hygiène informatique. Voilà. Avoir un minimum de base d'hygiène informatique, comme on l'a pour la biologie. On sait que quand on va dans les gares ou dans des lieux publics, bah, quand on rentre, les gamins, on leur fait se laver les mains parce que c'est... Voilà. Donc, c'est ces règles de base que l'ANSSI a... Alors, c'est vrai que l'ANSSI travaille beaucoup, mais sa mission de base, c'est les infrastructures critiques, hein. Le camping de Madame Michu, bah, ça ne rentre pas dans son scope. Il lui faudrait beaucoup plus de moyens pour attaquer. Mais globalement, on est un pays, quand il y a des grandes attaques mondiales, on n'a pas du tout été tapé, ou très peu. La seule usine qui a été tapée, c'est une usine dans le Nord, à Lille, Renault, où le DSI, le RSSI, n'avait pas fait les patchs 3 semaines avant. Tous ses autres collègues avaient fait le travail, donc personne n'a été tapé. Nos hôpitaux ont été ciblés, mais n'ont pas été tapés. Si vous regardez les hôpitaux anglais, vous aviez 75% des hôpitaux anglais qui étaient par terre. Plus rien ne se faisait. Les gars, ils ont été ramenés à l'âge de pierre. C'est-à-dire le bloc-notes, et ils prenaient les rendez-vous à la main, hein, au moment de WannaCry. Ça a duré comme ça 10 jours. Parce que les hôpitaux anglais n'avaient pas fait le travail, il n'y avait pas d'ANSSI équivalente. Voilà. En France, on a résisté. On ne le voit pas, parce que comme on n'est pas attaqué, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà.
Ultime question, puisque le temps file et les réponses sont prolifiques, alors très intéressant, je voudrais passer en question, mais c'est vrai que le temps est contre nous malheureusement, donc je t'en prie.
Du coup, j'avais une question à propos du fait que quand on va dans des bâtiments administratifs ou même des choses de l'État, etc., on voit qu'ils utilisent tous du Windows, ou alors que les personnes qui sont derrière ont un smartphone qui est soit du Apple ou soit un Android géré par Google, enfin bref.
Ou même du Huawei.
Ouais, voilà. Et le fond de ma pensée était la suivante. Est-ce que c'est pas par hasard dangereux pour tout un État, que ce soit administratif ou même niveau population, d'utiliser des produits qui sont fermés en source ? Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Quelles données sont envoyées ? Quelles données sont récupérées aux États-Unis ou ailleurs ? Ça peut être des données qui peuvent être réutilisées contre nous, en fait.
Alors, moi, je voudrais dire que c'est d'abord une question très importante. C'est celle qui a motivé plein de réflexions. Hein. Ça, cette question-là, les gens se la posent depuis longtemps. Il y a même des polémiques qui sont sorties. Quand Élise Lucet est venue au MINDEF et qu'elle s'est aperçue, oh malheur, qu'il y avait du Windows qui traînait. Mais bon, pensée complexe absente. Donc, elle s'est dit, ça y est, les gars, ils ont mis du Windows et donc on peut attaquer Windows. Donc, le MINDEF se fait attaquer. Voilà, grosso modo, l'émission de Lucet. C'est pas si simple que ça. Il y a du Windows à des endroits où, dans les réseaux, par exemple, critiques, les choses sont très séparées. C'est-à-dire que les choses les plus secrètes, les plus sensibles, elles ne sont pas en réseau. Ou si elles sont en réseau, c'est qu'elles sont en réseau interne, mais vous n'allez pas vous brancher sur Internet dessus. Donc, vous voyez, vous avez des cercles concentriques de choses. Et effectivement, sur des applications bureautiques très spécifiques, il y a du Windows. Sauf qu'autour, il y a de la sécurité périmétrique aussi, même pour ces choses anodines. Et que si le choix de Windows a été fait, c'est qu'il y a une raison aussi de rentabilité. Et puis, il y a des agents qui travaillent là-dessus. Derrière, ils sont mieux formés. Enfin, ils connaissent mieux Windows que Linux. Voilà, la question, c'est une question RH aussi. Mais ça n'introduit pas plus d'insécurité que d'utiliser du Linux. Alors, la gendarmerie, elle, a développé à base d'un noyau Linux, a développé son propre système. Donc ça, c'est une vraie avancée, et ils sont précurseurs dans le domaine. Les marins sont en train de le faire aussi, sauf que ça demande des moyens. Ça veut dire qu'il faut recruter des développeurs, il faut avoir des architectes, c'est des coûts et tout ça. Donc voilà, et sachant la pénurie aujourd'hui, ça veut dire que pour recruter des spécialistes en sécu, il faut s'aligner sur les, sur les salaires. Hein. Et quand vous voyez les salaires, déjà les boîtes françaises, c'est très compliqué. Hein. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant, c'est ce que je dis au mien, hein, je dis, vous êtes à Paris, traversez, allez voir du côté de Londres ou du côté de un peu plus loin, vous, d'un seul coup, vous avez multiplié par 4 votre salaire, instantanément. Donc il y a ça aussi, hein, la difficulté. Quand ce n'est pas les boîtes extérieures qui viennent faire leur marché en France directement dans les écoles. Et tout le monde ouvre les portes parce qu'elles arrivent avec les petits fours, les goodies, les machins. On vous paye le forum, on vous paye. Partout, les boîtes françaises sont bien plus moins téméraires là-dessus. Donc moi, je connais plein d'écoles qui sont les précarés de Google, d'Amazon et d'autres. C'est aussi ça le problème.
Donc de moralité, n'hésitez pas à faire une formation en développement. Et puis ceux qui sont encore sous Windows XP, passez à Windows 10 pour votre sécu. Voilà. Merci beaucoup Thierry Berthier. Merci à vous.